quelqu'un dans les Saintes Écritures, oh, je puis même le citer, il s'appelle le roi Ézéchias. Dans un cantique qu'il a composé, il dira à Dieu éternel, « C'est par tes bontés que l'on jouit de la vie. » Amen. Par tes bontés, on jouit de la vie. Et puis il va rajouter dans ce cantique, « C'est par elle que je respire encore. » Et si je ne suis pas Ézéchias, ni vous non plus, eh bien nous sommes ce matin au bénéfice de la même grâce. C'est parce que Dieu, notre Père Céleste, a bien voulu ce matin, d'après la révélation donnée par son serviteur, le prophète Jérémie, qui, dans les Lamentations, va mentionner quelque chose, oh, qui n'est pas spécialement, comme nous pourrions le considérer, un classique évangélique. Il n'y a pas de classique évangélique. C'est une réalité spirituelle. Amen. Et dans ce cantique, non pas dans ce cantique, dans les Lamentations, Jérémie, il est un homme auquel la souffrance non seulement était attachée parce que Dieu le lui avait imposé. Dieu lui avait imposé de porter le joug de son peuple. C'est-à-dire, au travers son cheminement, eh bien, Dieu avait estimé que, puisqu'avant même qu'il rentre dans le service, ou même lors de sa vocation, lors de son appel, quand Dieu l'a appelé à devenir un instrument dans sa main, Dieu lui a dit, Jérémie, avant que tu aies été formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Merveilleux, n'est-ce pas? Mais Dieu a rajouté, avant que tu sortes du sein maternel, je t'avais déjà établi prophète des nations. Pour que tu plantes, pour que tu bâtisses, pour que tu ruines. Et quand Jérémie entend la déclaration que lui fait l'Éternel quant à la mission qui sera désormais la sienne, eh bien Jérémie dit, Éternel, je suis un enfant, je ne sais pas parler. Bon, c'est-à-dire, il va chercher à mentionner devant Dieu ce qui ressemblerait pour lui à autant une excuse qu'un échappatoire, on peut dire ça. Mais Dieu prend les choses en main tout de suite et lui dit, ne dis pas tu es un enfant, car tu iras vers tous ceux vers qui je t'envoie et tu diras tout ce que je t'ordonne de leur dire. Il avait dit que désormais, c'est mon affaire. La mission, je l'ai préparé et dans tout ce à quoi tu seras confronté, je serai avec toi, je vais t'aider, je vais te conduire, je vais te diriger et je montrerai au travers de toi, de ta vie, mon plan et mon dessein, non seulement pour toi, mais surtout pour mon peuple. Et Jérémie, ce prophète, puisque dans les prophètes, il y a trois qu'on appelle les grands prophètes. Vous les connaissez? Le premier s'appelle Ésaïe. Il y a Jérémie. Il y a Ézéchiel. Il y a chaque fois, vous remarquez qu'il y a, eh bien, trois aspects différents. Dans Ésaïe, on voit qu'il y a un fil conducteur particulier qui est en rapport avec Jésus-Christ, les souffrances et toute l'œuvre de Dieu qui va s'accomplir en lui, particulièrement dans le chapitre 53. Dans Jérémie, vous voyez particulièrement le fil conducteur, ainsi parle l'Éternel. C'est Dieu qui parle, montrant ce qu'il voit dans son peuple, son plan pour son peuple, son dessein pour son peuple et toutes les reproches qu'il a à adresser à son peuple par rapport à leur conduite. Mais en même temps, Dieu transporte les choses dans le futur pour voir le futur rétablissement de ce peuple. Parce que c'est un peuple particulier. Amen. Et puis, dans Ézéchiel, vous voyez particulièrement le Saint-Esprit en action comme jamais. Donc, derrière ces trois prophètes, Jésus, mentionné particulièrement dans Ésaïe, dans Jérémie, l'Éternel, en action au travers le prophète, et puis dans Ézéchiel, le Saint-Esprit en action pour montrer véritablement les trois personnes de la divinité que Dieu sois béni. Et puis, mes bien-aimés, dans ce que je partage avec vous, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, c'est un peu la clé de voûte qui ressort des lamentations de Jérémie, puisqu'il a considéré sa misère en pensant à l'absinthe et au poison, c'est-à-dire tout ce qui a été comme du poison pour son âme, dans la souffrance, dans la douleur, dans le rejet, dans, lorsqu'il a été mis dans un puits, enfin, beaucoup de choses qu'il a expérimentées, mais malgré tout, lorsqu'il réalise la bonté de Dieu, la grandeur, la miséricorde, la compassion, l'amour de Dieu, pour lui, non seulement comme son prophète, mais pour son peuple, alors il dit, eh bien, la réalité, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ces compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Et quand le Saint-Esprit nous rappelle ces choses, lorsque nous ouvrons les yeux le matin, eh bien déjà nous avons un sujet de glorifier Dieu, de le bénir, de le louer, de l'exalter, de l'honorer, de le magnifier. Et en faisant ce que nous dit le psaume 37:5, lui recommander notre sort, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Et quand Dieu permet que nos yeux voient le jour, lorsque Jésus renouvelle en nous son souffle de vie, alors nous pouvons considérer qu'il a préparé tout ce qu'il faut pour que la journée, nous puissions la passer sous son regard, en sa présence, avec lui, étant utile dans sa main et conduit par son esprit, malgré l'hostilité du monde, malgré l'opposition de Satan, malgré tout ce à quoi on peut être confronté, alors, lorsque nous allons traverser la journée avec la grâce de Dieu, l'ayant terminé, arrivé vers le soir, eh bien, quand le moment de se reposer arrive, on bénit Dieu pour la journée qu'il nous a donné à passer. Amen. On le remercie parce que c'est encore une grâce qu'il nous a faite. Ses bontés n'étant pas épuisées, ni ses compassions à leur terme, s'étant renouvelées à notre égard le matin, on a traversé la journée et le soir, on le remercie. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que nous sommes là ce matin pour cela? Vous savez, celui qui est au milieu de nous, qui s'appelle Jésus-Christ, il sonde les cœurs et les reins. Il connaît nos vies, nos pensées, nos attentes, nos besoins, nos combats, nos luttes, nos chutes, nos relèvements. Il sait tout. Et c'est dans sa main que nous sommes ce matin. Amen. Nous sommes venus pour le rencontrer. Nous ne sommes pas venus pour se lamenter devant sa face outre mesure, pour répandre, toute l'amertume que notre cœur contraindrait ce matin parce que nous sommes éprouvés, parce qu'il y a ça qui ne va pas, parce qu'il y a encore ça, il y a ça à quoi je suis confronté. Et puis la liste des choses qu'on pourrait exposer devant lui serait tellement longue que nous négligerions l'essentiel, c'est-à-dire la priorité, l'adorer. Oui, le bien-aimé, qui a eu des souffrances comme Jésus? Personne. Il savait pourquoi il était venu sur la terre, il savait ce qu'il devait faire. Et quand vous lisez le texte de l'évangile de Jean, chapitre 13, la Bible nous dit que Jésus, sachant que le moment était venu de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Et vous savez, le comble à l'amour de Jésus, c'est qu'il va laver les pieds de ses apôtres, l'un après l'autre, y compris les pieds de celui qui devait le livrer, n'est-ce pas? Et puis, allant plus loin, il dira, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Seigneur et Maître, et vous dites bien parce que je le suis. Cependant, si moi, le Maître, je vous ai lavé les pieds, je vous ai laissé un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Amen. Il met le comble à son amour. Et le comble à son amour était de ne pas considérer les souffrances qu'il allait endurer, mais accomplir tout ce qui était nécessaire, suffisant, exigé par le Père, pour que lorsqu'il a fini d'accomplir ce que le Père l'avait envoyé accomplir, là où le jugement nous était destiné, réservé, la grâce de Dieu nous soit opposée. Amen. N'oublions pas, frères et sœurs en Christ, que Dieu, dans sa grâce, selon la déclaration de l'apôtre Paul, nous a élus avant la fondation du monde. Je prenais l'exemple de Jérémie, mais pour nous, c'est avant la fondation du monde que nous avons été élus. Et cette élection a mené la prédestination a mené la vocation, l'appel divin, et l'appel divin nous a introduits dans l'adoption. Ce matin, nous sommes enfants de Dieu. Amen. Je vois quelqu'un me dit, mais pasteur gentil, si je suis enfant de Dieu, pourquoi toutes ces épreuves? Eh bien, c'est pas quelque chose d'étrange qui te souvient d'être dans la fournaise de l'épreuve. C'est pas étrange, c'est normal. Comment ça c'est normal, pasteur? Mais vous n'êtes pas à ma place. Non, je suis à la mienne. Mais c'est le même principe. Gloire à Dieu. Je sens qu'il n'y a pas beaucoup de souffrance ce matin, mais c'est pas grave. Je ne cherche pas à avoir des suffrages. Je dis la parole de Dieu, je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Voilà, asseyez-vous mes bien-aimés, puis je vous invite à ouvrir avec moi vos Bibles. Et pendant le temps que Dieu nous donne à partager sa parole, nous allons revenir sur ce que nous avions partagé à partir du Proverbe 23 au verset 26. Livre des Proverbes, chapitre 23, verset 26. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Il sonde les cœurs et les reins, il connaît nos vies. Et c'est lui qui maintenant va nous donner à partager au travers de sa parole la réception de ses saints conseils, l'exhortation qu'il veut nous dispenser, l'enseignement, l'instruction, l'édification, enfin tout l'apport spirituel que véhiculent les saintes écritures et qui va nous être donné pour que cela fasse du bien à notre âme. Amen. Oh, le bon berger. Alléluia. Le bon berger. Le psalmiste dit, l'Éternel est mon berger. Et puis, il va nous donner toute une chaîne de références qui va en découler. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus se définit comme étant le bon berger. Amen. Le bon berger qui connaît ses brebis et en tant que tel, il manifeste l'amour du Père, montrant que les brebis ont de la valeur à ses yeux, qu'il les connaît, leur assurant la protection. Il dira que, eh bien, les brebis entendent sa voix et elles le suivent. Et étant accoutumées à entendre sa voix, elles ne suivront pas la voix des étrangers, mais elles fuiront loin d'eux. Pour montrer véritablement la valeur que nous avons à ses yeux, lui, le bon berger, il va mentionner le fait que mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Amen. Ce matin, nous sommes dans la main du bon berger. Sécurité absolue, sécurité assurée, tranquillité, paix, joie. Comme je disais à un frère tout à l'heure, cheminant avec lui, je lui disais que quelquefois dans nos corps, nous sommes tributaires de certains aléas de la santé. N'est-ce pas? Des fois, le corps s'use et c'est pas quelque chose qui est nouveau. C'est quelque chose qui est normal. La vieille nature, notre vieil homme, se corrompt et se détruit. Mais autant le vieil homme se corrompt et se détruit, autant l'homme nouveau se bonifie à l'image de celui qui l'a créé. En se bonifiant, il se renouvelle. C'est vrai que lorsqu'on arrive à un certain âge, le corps s'use, et vous comme moi, vous remarquez qu'il arrive, eh bien, dans la santé, quelques aléas, rhumatisme, arthrose, arthrite, etc. et tout le reste. On n'est pas à Los Angeles, hein, ici. On est à Paris. Pourquoi? Parce que Los Angeles, tout le monde est jeune. Il y a des jeunes de tous âges. Pourquoi? Parce que la chirurgie esthétique prospère. Mais un enfant de Dieu ne s'attache pas à la chirurgie esthétique, il s'attache à Jésus-Christ. N'allez pas me dire, pasteur gentil, mais la Bible dit, je rajeunis comme l'aigle. Oui, tu rajeunis comme l'aigle, mais à l'intérieur. Ah, nous voudrions tous rajeunir comme l'aigle à l'extérieur. Alors ça veut dire que nous sommes au rang de ceux qui estimons ne pas vouloir mourir. Oh, je comprends. Tout le monde veut aller au ciel, n'est-ce pas? Je vous ai laissé faire la déduction. Je n'ai pas dit la suite, hein. Mais vous avez compris. Proverbe 23, verset 26. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Donne-moi ton cœur car la prostitution est une fosse profonde et l'étrangère un puits étroit. Elle dresse des embûches comme un brigand et elle augmente parmi les hommes le nombre des perfides. Mon fils, donne-moi ton cœur. Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Donc nous avons remarqué, frères et sœurs en Christ, que derrière ce que nous lisons là, ce ne sont pas des paroles destinées à des étrangers. Puisque comme vous connaissez comme moi le livre des Proverbes, vous voyez que dans le livre des Proverbes, du chapitre 1er au chapitre 7, voyons que Salomon est conduit à donner toute une série de paroles qui ressemblent fortement à ses conseils paternels destinés au fils de la sagesse. Fils de la sagesse, image de Jésus qui a été fait pour nous de la part du Père. Sagesse, justice, sanctification et rédemption. Et nous qui sommes devenus enfants de Dieu et par conséquent disciples de Jésus. À qui ces conseils sont destinés et tout au long du livre, c'est le même processus que Dieu va utiliser au travers de Salomon. Et lorsque nous arrivons à ce chapitre 23 et au verset 26, nous voyons qu'il y est donné une exhortation. Mon fils, donne-moi ton cœur. Qu'est-ce qu'un fils? N'est-ce pas quelqu'un qui est dans une famille? Un fils est l'enfant d'un père et d'une mère. Donc ça veut dire qu'il est déjà entré dans le plan de Dieu. Il est déjà devenu un enfant du Père, et comme vous et moi ce matin, eh bien, c'est une exhortation à donner ce cœur à Dieu. Ce cœur, puisque malheureusement, lorsque nous avons cru pour le salut, pas malheureusement, heureusement, quand nous avons cru pour le salut, nous avons donné notre cœur à Jésus-Christ. N'est-ce pas? Béni soit Dieu. Et en donnant ce cœur à Jésus-Christ, notre cœur, le Saint-Esprit a pu commencer un travail en profondeur de déraciner tout ce qui avait pris place de par l'éducation que nous avons reçue de nos pères, de par l'éducation religieuse, de par ce que le monde nous a enseigné, de par nos propres expériences personnelles qui, malheureusement, frères et sœurs en Christ, nous avaient entraînés à avoir une attitude, des raisonnements, eh bien, des décisions qui étaient loin, très même loin, de ce que Dieu veut pour nos vies comme ses enfants. N'est-ce pas? Et puis, une fois qu'on a cru pour le salut, nous avons expérimenté la nouvelle naissance, ça veut dire que Dieu a travaillé ce cœur, il l'a changé, et chemin faisant, donc en continuant sur le chemin de la persévérance, Il arrive malheureusement que certaines choses que nous avions abandonnées, que nous avons cru pour le salut, dites avec moi, ont repris place à l'intérieur. Et de manière insoupçonnée, se sont installées ou réinstallées en nous. Et puis c'est un combat constant, puisque nous sommes livrés, frères et sœurs en Christ, à ce conflit intérieur entre la vieille nature et l'homme nouveau, entre la chair et l'esprit. Et comme c'est au niveau du cœur que beaucoup de choses se passent, s'installent, se décident et se manifestent, alors Dieu nous exhorte à lui redonner, je dis redonner, mais à lui donner notre cœur. Et nous avons vu toute une chaîne de références dans le chapitre 23, je ne vais pas y revenir dessus, mais nous avons vu à partir du verset 7, le verset 12, le verset 15, le verset 17, le verset 19, le verset 26 et le verset 33, chaque fois, frères et sœurs en Christ, il est question du cœur et de ce que Dieu veut faire dans ce cœur ou à partir de ce cœur. Alors ce matin, pour aller plus loin, nous allons ouvrir, si vous le voulez, un autre volet. Est-ce que vous le voulez? Oui, vous le voulez, je le veux, c'est parce que Jésus le veut. Alors, pour cela, donc j'ai un petit peu récapitulé, vous avez vu ce matin, j'ai été très vite, hein, pour pas simplement revenir sur ce que j'avais déjà dit. Parce que je veux que nous regardions ce matin le texte de Ésaïe, le chapitre 29, au verset 13. Ésaïe 29, 13. Que le nom de Jésus soit béni, que Dieu soit glorifié, que sa grâce se répande comme une fraîche rosée. Alléluia. Alors, Ésaïe 29, verset 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais, son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Pourtant, frères et sœurs en Christ, quand Dieu dit ce peuple, c'est un peuple qui connaît Dieu. C'est un peuple qui a, comment dirais-je, le souvenir de la main puissante que l'Éternel a déployée lorsqu'il a sorti son peuple de l'esclavage de l'Égypte après 430 ans de domination sous plusieurs pharaons. Connaissance de la puissance que Dieu a déployée autant dans les plaies de l'Égypte, mais aussi la main puissante qu'il a déployée en permettant que la mer Rouge s'écarte et que son peuple traverse à pied sec. Est-ce que vous le croyez, frère et sœur? Certaines personnes disent que ces paroles-là, ils sont devant ce qui ressemble pour eux à une impossibilité. Ils disent c'est pas possible. Mais plus l'homme dit c'est pas possible, plus Dieu se glorifie parce qu'il sait ce qu'il est et il sait ce qu'il fait. Et nous qui sommes ses enfants, nous croyons qu'il en a été ainsi. Gloire à Dieu. Et c'est ce Dieu Tout-Puissant qui, eh bien, dit que quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Pourtant, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, dans les évangiles, il a repris ce passage pour donner une plus grande ouverture et une explication qui n'est pas du tout négligeable. Vous voulez qu'on le voit ensemble? Oui. Alors, regardez avec moi cela dans
L'évangile de Matthieu, regardez avec moi au chapitre 15 de Matthieu et arrêtons-nous au verset 8. Vous allez voir comment notre Seigneur Jésus prend la parole et comment dans la grâce qui est accordée, il va élargir le champ de la pensée et rajouter certains points importants qui ne sont pas mentionnés par le prophète Ésaïe, mais qui sont importants pour nous ce matin à regarder. Regardez avec moi. Vous savez, frère, ce qu'on va faire pour plus de compréhension, on n'a pas à courir au galop, nous allons y aller au pas du Saint-Esprit. Amen. Et pour aller au pas du Saint-Esprit, prenons Matthieu 15, mais la première phrase, le premier verset. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Première réponse, il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Verset 7. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Quand il a dit, ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Donc, Jésus reprend les paroles qu'avait annoncées près de 800 ans le prophète Ésaïe. En cela, il fait une première chose, il confirme les Écritures et leur authenticité. Et puis, il va nous amener sur un terrain important, car ceux qui sont concernés, ce sont des pharisiens. Pharisiens, une secte religieuse très puissante et très influente du temps de Jésus, qui était autant attaché à la loi de Moïse, mais aussi attaché à la tradition des pères, de telle manière que malheureusement, ils substituaient à la parole de Dieu la tradition des pères. Ou, certaines fois, ils donnaient plus de valeur à la tradition des pères qu'à l'enseignement de la parole de Dieu. Ou qu'à la parole de Dieu. Les scribes, ce sont ceux qui avaient la connaissance théologique. Et c'étaient les mêmes qui étaient chargés d'étudier les textes de loi et les mêmes qui étaient aussi chargés de les enseigner. Donc, c'était des personnes qui étaient influentes, très influentes dans le pays ou même dans la société. Attachées au judaïsme, texte de loi, et puis ils se faisaient, eh bien, un honneur, ils se mettaient en évidence, ils se mettaient en honneur eux-mêmes parce qu'ils estimaient qu'ils étaient supérieurs aux autres. Et quand vous lirez Matthieu 23, vous verrez comment sept fois Jésus va les censurer avec une grande énergie spirituelle pour leur montrer l'hypocrisie qui habitait leur cœur. Alors, qu'est-ce que Jésus veut me faire comprendre ce matin? Claude, mets ton nom. Dieu ne veut pas que tu sois un hypocrite. Je l'avais dit, Dieu veut que tu sois vrai. Et pour que tu sois vrai comme Dieu veut, c'est dans ton cœur que ça se passe. Parce que dans le cœur, il y a beaucoup de choses qui s'installent, qui demeurent, que les yeux de l'homme ne voient pas, mais qui tôt ou tard vont influencer autant ton attitude, ton comportement, tes raisonnements et tout le reste. Et si Dieu, ce matin, dénonce le fait qu'il a horreur que l'honneur des lèvres et que ce cœur soit éloigné, ça veut dire qu'il veut qu'il y ait une harmonie entre ton cœur et ta bouche. Mais ça, tu ne peux pas le faire. Pourquoi? C'est le résultat de ce que Jérémie 17, verset 9 nous dit. Le cœur est tortueux et méchant par-dessus tout. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, je sonde les cœurs et les reins pour rendre à chacun selon ses œuvres, selon le fruit de ses œuvres. Mais ça, je le comprends. Cela dénote le cœur de l'homme irrégénéré. Ben oui, le cœur de l'homme irrégénéré, il est tortueux et méchant par-dessus tout. Mais le cœur du disciple, il a au préalable été travaillé par le Saint-Esprit. Mais parce que celui qui sonde le cœur et les reins, mon cœur et mes reins, ton cœur et tes reins ce matin. Parce que quand je dis sonder, c'est parce que Dieu fait descendre sa jauge au fond du cœur. Et la jauge qui fait descendre au fond de mon cœur, c'est pas un morceau de métal, hein. C'est sa parole par le Saint-Esprit. Et quand la parole de Dieu descend par le Saint-Esprit, il regarde. Et frères et sœurs en Christ, prenons un véhicule. Quand je fais descendre la jauge dans le moteur, c'est pour savoir quoi? Le niveau? Le niveau de l'essence? Non, le niveau de l'huile. Alors Dieu veut savoir à quel niveau le Saint-Esprit est actif dans mon cœur. Jusqu'où je lui permets de travailler. Et si Dieu voit qu'il y a des coins, des recoins, des arrière-coins dans mon cœur, où malheureusement le travail n'est pas fait, mon fils, donne-moi ton cœur. Et vous voyez aussitôt après la relation entre le cœur et les yeux, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Pourquoi? La prostituée est une fosse profonde. Et la femme perverse, c'est un puits étroit. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces deux images? La prostituée, la séduction. Le puits étroit, ce qui est trompeur. Ce que Satan va utiliser pour tromper, séduire, entraîner. Puis derrière tout cela, frères et sœurs en Christ, il y a l'image aussi des fausses doctrines qui, avec leur apport séducteur au préalable, attrayant, va nous amener fort souvent, si nous manquons de discernement, à accepter ce qui est faux ou vrai. Et quand j'accepte ce qui est faux ou vrai, au prime abord, ça a l'air de rien, mais à la longue, Parce qu'un poison, il y a des poisons qui sont instantanés, mais il y a d'autres poisons qui sont destructeurs, mais dans la durée. Mais la fausse doctrine, c'est un poison destructeur dans la durée. Au départ, ça semble séduisant, attrayant, agréable. Mais à la longue, cela fait un travail insoupçonné, mais dont le résultat, fort souvent, est très, très nuisible pour nos âmes. Vous savez, frères et sœurs en Christ, la Bible nous dit que celui qui s'attache à une prostituée devient avec lui un même cœur. Oh, je parle pas sur le plan moral, parce qu'un enfant de Dieu ne va pas vers une prostituée qui vend son corps pour de l'argent. Il y a une règle morale en rapport avec son rang. Mais derrière cela, il faut voir la portée spirituelle. Le risque qu'entraîné dans la séduction, on se retrouve au rang de ceux dont la volonté propre se retrouve sans force. Car lorsqu'on est séduit, notre volonté propre se retrouve sans force. Et nous sommes comme menés par le bout du nez pour accepter de faire ce que nous commande l'objet de la séduction. Pasteur, ce matin, vous nous parlez avec un langage qui est particulier. Non, c'est pas particulier, c'est normal. Mon fils! Et que tes yeux se plaisent dans mes voix. Il dit, donne-moi ce cœur pour que je puisse mettre en toi ce qu'il faut, rajouter ce qui manque, travailler à bon escient pour que le résultat, tu en sois bénéficiaire. Mais pour cela, il faut non pas que moi, j'insiste pour dominer, t'obliger. Non, je veux ton association, donne-moi ton cœur. On aurait pu dire, mon fils, je prends ton cœur. Mon fils, je domine ce... Non, mon fils, donne-moi ton cœur. Il a dit, je veux t'associer. Je veux ta contribution. Je veux agir en accord avec ta décision. Je veux que ça vienne de toi. Mais ça ne peut pas venir de toi si tu ne reconnais pas ce que Dieu dit. Quelquefois, j'honore Dieu de la bouche et des lèvres, et je vois que mon cœur n'est pas entier. Des fois, frères et sœurs, nos cœurs sont partagés. Il y a des choses auxquelles nous sommes attachés, la vieille nature tient à les garder. Et puis, quelquefois, lorsque Dieu dit « donne-moi ton cœur », eh bien, il dit « Seigneur, oui, tout ce que tu veux, mais pas ça, Seigneur ». Parce que la vieille nature aime et chérit sans quoi elle prend plaisir. Mais Dieu dit non, il faut absolument que je travaille en toi pour t'en débarrasser. Et si tu ne veux pas que je puisse œuvrer de cette manière-là, alors moi j'ai mes méthodes. Les méthodes, mais ça peut être, je te permets de passer par un chemin, ou soit sur un lit d'hôpital, soit par une épreuve quelconque, d'une manière ou d'une autre, j'œuvre pour que ce qui est un obstacle à l'action du Saint-Esprit en toi soit dégagé. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Donc, le Seigneur me demande mon cœur pour me débarrasser un temps soit peu de tout ce qui serait un bien nocif, nuisible, et il ne veut pas que je sois au rang de ceux qui l'honorent de la bouche et des lèvres et dont le cœur est éloigné de lui. Ça veut dire qu'il ne veut pas que j'ai la conduite, l'attitude d'un hypocrite. Est-ce que je dis amen à cela? Regardez avec moi, frère et sœur en Christ, une autre pensée. Toujours dans le livre des Proverbes, nous allons regarder le chapitre 4 Et nous allons nous arrêter au verset 23, Proverbe 4, 23. Puis de Proverbe 4, 23, nous irons dans le même chapitre, dans deux autres versets qui aussi sont importants à considérer. Même verset 20, Proverbe 4, 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les, dites avec moi, au fond. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout le corps. Tout leur corps. Puis il continue. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et si chacun s'en fait une application personnelle, il pourra, en s'appropriant la parole, dire, garde, je garde mon cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de ma vie. Ça veut dire que la parole de Dieu que je garde au fond de mon cœur, c'est une source de vie spirituelle pour mon âme. Mais je puis aussi en tirer un bénéfice personnel pour mon avancement spirituel, mon avancement sur le chemin de la vie, mon avancement sur le chemin de la persévérance par rapport à ce qui est au fond de mon cœur. Mon fils, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alors, ça nous ramène au verset initial. Mon fils, donne-moi ton cœur. Tes yeux se plaisent dans mes voies. Voyons qu'il y a une relation spirituelle ou une corrélation entre le cœur, les yeux et la marche. Parce que quand la parole de Dieu est au fond de mon cœur, il se passe une chose merveilleuse, c'est que spirituellement, il y a un effet bénéfique qui va découler d'une vie sanctifiée, une vie séparée, une vie où j'ai la capacité de rejeter tout ce qui est étranger pour m'attacher à ce qui est véritable, ce qui est vrai, ce qui est saint, ce qui est pur, ce qui est juste, ce qui mérite l'approbation, ce qui est digne de louange. C'est un travail spirituel, mais qui est combien merveilleux pour celui qui a compris et saisi. Alors, pasteur, je dis, comment faire? C'est pas compliqué. Tu as des yeux. Moi, j'ai besoin de lunettes. Et puis, j'ai la parole de Dieu. Alors, quand je fais cela, je lis, je médite. Je tâche, en méditant, de comprendre ce que je lis. Et même si je ne comprends pas, le travail spirituel s'opère. C'est que le Saint-Esprit en action prend l'Écriture, il remplit mon cœur de l'Écriture. De telle manière que la parole de Dieu s'attache à moi, et si elle s'attache à moi, je m'attache à elle. Ça, les yeux de l'homme ne le voient pas. Mais c'est spirituel. Et ça se passe merveilleusement dans le plan, dans la volonté, et dans le dessein de Dieu pour ma vie, pour ta vie, pour nos vies. Alléluia. Que Dieu, notre Père, soit béni et glorifié. Proverbe 4, versets 1 à 4. Pour nous emmener à regarder comment Salomon, toujours au même endroit, déclare. Écoutez, mes fils, quoi ? À l'instruction d'un père. Et soyez attentifs pour connaître la sagesse.
car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un tendre fils unique auprès de ma mère. » Dans la portée prophétique, nous avons compris que celui dont il est question, c'est notre Seigneur, Jésus, prophétiquement, c'est le fil conducteur. Il m'instruisait alors et me disait « Que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes. Es-tu ?» Alléluia. « Que ton cœur retienne mes paroles. » Et frères et sœurs en Christ, comme je viens de vous le dire, des années, le Seigneur Jésus-Christ a établi des ministères pour nous enseigner. Réunion après réunion, nous recevons un enseignement. Mais en plus de cela, nous-mêmes, étant établis sur nos vies chrétiennes comme des sentinelles, mais Dieu nous donne à veiller sur nous-mêmes. Et en veillant sur nous-mêmes, nous sommes exhortés à garder nos cœurs plus que toute autre chose, car de ce cœur vient les sources de la vie. Les sources de la vie, c'est pas ma vie, parce que ma vie un jour va s'arrêter. Mais les sources de la vie, ce sont les sources divines, comme Jésus a dit, dans le grand jour de la fête, lorsqu'il était monté à Jérusalem, incognito, le grand jour de la fête, il part en public, alors qu'on cherchait à maintenant l'arrêter. D'ici quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et puis la Bible nous dit que Jésus-Christ dit ces paroles en prévision de l'Esprit que devraient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit Saint n'avait pas encore été envoyé, puisque Jésus n'avait pas encore été glorifié. Mais depuis, Jésus a été glorifié et a reçu du Père le Saint-Esprit et il a répondu comme vous le voyez et comme vous l'entendez, le jour de la Pentecôte. Et encore aujourd'hui, c'est le même principe. Or, le Saint-Esprit en action ne fait que cela. Dans l'une de ses attributions, prendre de ce qui est de Jésus, de l'Écriture, et le déposer dans mon cœur. Quand je dis mon cœur, n'allez pas croire que c'est le muscle qui fait battre, qui circule le sang. Non, c'est cet endroit en moi. Il y a mon esprit, le lieu le plus secret, mon âme, et puis mon corps, mon être. Travailler en action avec ma conscience, mon esprit, enfin, tout un travail à l'intérieur, mais dont les effets se voient à l'extérieur. Car je ne pourrai jamais, frères et sœurs en Christ, pratiquer la parole de Dieu, agir, marcher, avancer, si la parole de Dieu n'est pas dans mon cœur. D'où l'exhortation ce matin, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Car la prostituée est une fosse profonde, et puis la femme étrangère, un puits étroit. Alors je vous donne une dernière lecture. Bien, nous allons la trouver. Lorsqu'il y a eu un dialogue entre Jésus et les disciples d'Emmaüs. Jésus est ressuscité, vous connaissez le récit, et puis il va cheminer sur le chemin d'Emmaüs, et voici qu'il va rencontrer deux disciples. Et cheminant avec eux, Jésus va leur dire, mais de quoi vous entretenez-vous pour que vous soyez si tristes? Et puis, ils vont dire à Jésus, mais es-tu le seul qui demeure à Jérusalem, ne sache pas ce qui s'est passé ces jours-ci, etc. Donc, ils vont essayer de faire un peu à Jésus un rapport historique sur les éléments, comme un fait divers. Mais s'il y avait quelqu'un qui était bien au courant, c'était bien celui qui était à côté d'eux, mais dont les yeux étaient empêchés de le reconnaître. Donc, une action divine auparavant qui fait que leurs yeux soient empêchés de le reconnaître. Alors, Jésus va leur dire à ce moment-là, « Ô homme sans intelligence, dont le cœur est loin à croire ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?»
Et commençant par Moïse et les psaumes, Jésus va leur parler de tout ce qui le concerne dans les Écritures. Chemin faisant, en leur expliquant les Écritures, leur cœur qui était attristé, leur cœur qui était froid, leur cœur qui était lent à croire, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que progressivement la parole que Jésus leur donnait a commencé à faire que le cœur a commencé à se réchauffer, et le cœur s'est tellement réchauffé qu'à un moment donné, c'était plus un cœur réchauffé, mais c'était un cœur brûlant. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est eux-mêmes qui l'ont confessé. Nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'en chemin nous allions et qu'ils nous expliquaient les Écritures? Cela veut dire que quand l'Écriture est expliquée, le prédicateur est conduit par le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit qui donne au prédicateur la clé pour expliquer l'Écriture, c'est le même qui allume le feu de la compréhension et de la réception dans le cœur. De telle manière que lorsque il a disparu devant eux, après qu'ils l'eurent reconnu, vous savez ce qu'ils ont fait lorsqu'ils sont retournés à Jérusalem? La première chose qu'ils ont dit, le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Pierre. Alors ce matin, nous pouvons le dire avec Jésus, d'après le témoignage de l'Écriture, le Seigneur est réellement ressuscité. Il n'est pas apparu à ses faces, il est au milieu de nous. Bon, je n'ai pas dit qu'il est apparu à ses faces, c'est pas ça que je veux dire. Il est au milieu de nous ce matin. Et parce qu'il est là, mon fils, et que tes yeux se placent dans mes voies. Ah, ça fait du bien. Alléluia. Ah, j'ai envie de danser devant Jésus ce matin. Tellement ça fait du bien à mon âme. Alléluia. Prions le Seigneur, mes bien-aimés.